Chapitre 24. Bien autrement encore que Maître Folga, le célèbre avocat de Sauveterre avait été surpris de l'imprévu de la rencontre et de l'étrangeté du personnage. Et dès que le ménétrier ambulant se fut éloigné, « Vous connaissez cet individu ? » demanda-t-il à son jeune confrère. « Cet individu, répondit Maître Folga, n'est autre que cet agent dont je vous ai parlé et dont j'ai acheté les services. » « Goudard ? » ?»« Oui, Goudard. » »« Et vous ne le reconnaissiez pas ?» Le jeune avocat souriait. « Avant qu'il eût parlé, non, dit-il. Le Goudard que je connais est assez grand, maigre, imberbe et porte les cheveux taillés en brosse. Ce musicien des rues est petit, replet, barbu et ses longs cheveux plats lui tombent jusqu'au milieu du dos. Comment deviner mon homme sous son costume de vagabond, un violon à la main et patoisante une ronde saint-ongeoise ? Maître Magloire souriait lui aussi. « Que sont les comédiens de profession comparés à ces gens-là » dit-il. « En voici un qui se prétend arriver de ce matin et qui, déjà, semble du pays autant que cheminot lui-même. Il n'y a pas 12 heures qu'il est à Sauveterre, et il sait l'existence de la petite porte du jardin de Monsieur de Chandoré. Oh, je m'explique maintenant cette circonstance qui m'avait d'abord étonné. Ayant tout raconté en détail à Goudard, j'ai dû nécessairement lui parler de cette porte à propos de Méchinet. Causant ainsi, ils avaient atteint l'extrémité de la rue Nationale. Ils s'arrêtèrent. Un mot encore avant de nous séparer, reprit Maître Magloire. Vous êtes bien décidé à voir Madame de Clodieuse ? Je l'ai promis. Que lui direz-vous ? Je ne sais, cela dépendra de son accueil. Du caractère dont je la connais, à la seule vue du billet de Jacques, elle va vous commander de sortir. Qui sait ? Je n'aurai pas, en tout cas, à me reprocher d'avoir reculé devant une démarche quand mon âme et conscience je juge nécessaire. Quoi qu'il arrive, soyez prudent, ne vous laissez pas emporter. Songez qu'un éclat nous obligerait à changer notre système de défense, le seul qui présente quelque chance. Oh, soyez sans inquiétude. Sur quoi, échangeant une dernière poignée de main, ils se séparèrent, Maître Magloire regagnant son logis, Maître Folga remontant la rue de la Rampe. La demie de 6 heures venait de sonner. Aussi le jeune avocat se hâtait-il, craignant de se faire attendre. On l'attendait en effet pour se mettre à table, mais en entrant au salon, il ne songea plus à s'excuser, tant il fut frappé de l'accablement et de la morne tristesse des amis et des parents du prisonnier. « Avons-nous donc quelque fâcheuse nouvelle ? » interrogea-t-il d'une voix hésitante. « La plus fâcheuse que nous eussions à redouter, oui, monsieur, répondit le marquis de Boiscourant. Elle n'était que trop prévue de nous tous, et cependant, vous le voyez, elle nous surprend comme un coup de foudre. » Le jeune avocat se frappa le front. « La chambre des mises en accusation a rendu son arrêt, » s'écria-t-il. De la tête, comme si la voix lui eût manqué, le marquis répondit « Oui. » « C'est encore un grand secret, » ajouta Mademoiselle Denise. « Et si nous le savons, c'est grâce à une indiscrétion de notre bon, de notre dévoué Méchinet. Jacques est renvoyé devant la cour d'assises. » Elle fut interrompue par un domestique qui entrait annoncer que Mademoiselle était servie. On passa dans la salle à manger. Mais sous l'emprise de ce dernier événement, le dîner fut lugubre. Seule Mademoiselle Denise, qui devait à la fièvre son étonnante énergie, aida Maître Folga à maintenir la conversation vivante. Par elle, le jeune avocat apprit que décidément le comte de Clodieuse était au plus mal et qu'on lui eût administré dans la journée les derniers sacrements, sans le docteur Seignebosse qui s'y était opposé en déclarant que la plus légère émotion pouvait tuer son malade. « Et s'il meurt, prononça M. de Chandoré, ce sera notre dernier coup. L'opinion, déjà si montée contre Jacques, deviendra implacable. » Cependant, le repas finissait. Maître Folga s'approcha de Mademoiselle Denise. « J'ai à vous prier, mademoiselle, lui dit-il, de me confier la clé de la petite porte du jardin. » Elle le regardait d'un air étonné. J'ai à recevoir secrètement, ajouta-t-il, l'homme de la police qui m'a promis son concours.
Il est ici ?
De ce matin. Mademoiselle Denise lui ayant remis la clé, maître Folga se hâta de gagner le fond du jardin, et au troisième coup de 9 heures, le ménétrier de la place du marché neuf, Goudard, poussa la petite porte et entra, son violon sous le bras. Un jour de perdu, commença-t-il sans même songer à saluer. Tout un jour, car je ne pouvais rien tenter avant de vous avoir vu. Il semblait si furieux que maître Folga entreprit de le calmer. Laissez-moi d'abord, dit-il, vous complimenter de votre travestissement. Mais Goudard n'était point sensible aux éloges. Que serait un policier qui ne saurait pas se travestir, interrompit-il. Beau mérite, ma foi, et croyez que rien ne me répugne davantage. Mais pouvais-je tomber à Sauveterre avec ma véritable personnalité? Un homme de la police? Brouh! Tout le monde m'eût fui comme la peste, et on n'eût répondu que des mensonges à toutes mes questions. Alors, je me suis affublé de cette défroque honteuse qui m'est familière, et pour laquelle, même, j'ai pris pendant 6 mois un professeur de violon. Un musicien ambulant fait tout ce qu'il veut sans éveiller les soupçons. Il erre dans les rues ou le long des routes, il entre dans les cours, se glisse dans les maisons, visite les cafés et les cabarets. Il peut, sous prétexte de demander l'aumône, accoster les gens, leur parler, les suivre. Et pour ce qui est de la façon dont je baragouine le Saint-Ongeois, sachez que j'ai passé 6 mois dans les Charentes à la piste des faux billets de banque du fameux Gâteau-Bourse. Si au bout de 6 mois on ne tient pas l'accent d'une province, on ne sera jamais un policier. Or, je le suis, moi. Je suis condamné à cet exécrable métier qui fait le désespoir de ma femme. Si votre ambition est vraiment ce que vous m'avez dit, mon cher Goudard, interrompit maître Folga, peut-être pourrez-vous le quitter bientôt, ce métier que vous détestez tant. Si vous réussissez à tirer d'affaire monsieur de Boiscourant, il me donnerait la maison de la rue des Vignes de grand cœur. L'homme de la préfecture leva les mains au ciel. La maison de la rue des Vignes, répéta-t-il, le paradis en ce monde, un jardin immense, une terre d'une qualité supérieure. Et quelle exposition, mon maître! J'y ai lorgné des murs où j'obtiendrai des pêches plus belles que celles de Montreuil et des chasselas plus parfumés que ceux de Fontainebleau. Y avez-vous trouvé quelque nouvel indice? Demanda maître Folga. Brusquement rappelé à la réalité, Goudard s'assombrit. Aucun, répondit-il, et c'est inutilement que j'ai interrogé tous les fournisseurs. Je ne suis pas plus avancé que le premier jour. Espérons que vous serez plus heureuse ici. Je l'espère, mais pour commencer mes opérations, il me faut votre assistance. J'ai besoin de voir le docteur Saignebosse et le greffier Méchinet. Priez-les de se trouver au rendez-vous qu'un billet de moi leur assignera. Ils seront prévenus. Maintenant, si je veux que mon incognito soit respecté, il me faut un permis de séjour du maire, au nom de Goudard, musicien ambulant. Je garde mon nom que personne ici ne connaît. Mais il me faut ce permis ce soir même. Où que je me présente pour coucher, on me demandera mes papiers. Attendez-moi un quart d'heure là, sur ce banc, dit maître Folga. Je cours chez le maire. Un quart d'heure plus tard, en effet, Goudard avait son permis en poche et s'en allait demander un gîte à l'auberge du Mouton Rouge, la plus mal famée de Sauveterre. En présence d'une obligation pénible et inévitable, les tempéraments se décèlent. Les uns ajournent tant qu'ils peuvent, tergiversent, lanternent, pareils à ces dévotes qui renvoient leurs gros péchés à la fin de leur confession. Les autres, au contraire, ont hâte de se débarrasser de l'anxiété et en finissent le plus tôt qu'il est possible. Maître Folga était de ces derniers. Réveillé avec le jour, le lendemain de l'arrivée de Goudard, « Je verrai Madame de Clodieuse ce matin même, » se dit-il. En effet, dès 8 heures, vêtu avec plus de recherche peut-être que de coutume, il sortit en disant au domestique qu'on ne l'attendit pas s'il n'était pas rentré au moment du déjeuner. C'est au palais de justice qu'il se rendit tout d'abord, espérant bien y rencontrer le greffier. Et son espoir ne fut pas déçu. La salle des pas perdus était déserte, mais déjà Méchinet était à son bureau, grossoyant, avec l'activité fiévreuse qu'imprime l'idée constante d'un immeuble à payer. Il se dressa en voyant entrer Maître Folga, et tout de suite « Vous savez l'arrêt de la chambre, » fit-il. « Oui, grâce à votre obligeance, et je dois vous avouer qu'il ne m'a pas surpris. Qu'en pense-t-on au palais ?»«
Tout le monde croit à une condamnation. »
« Nous le verrons bien, » fit le jeune avocat. Et, baissant la voix, « Mais je viens encore pour autre chose, » continua-t-il. « L'agent que j'attendais est arrivé et désirerait vous entretenir. Il vous écrira pour vous assigner un rendez-vous. Accordez-le lui, je vous en prie. »«
Certes, de tout mon cœur, » répondit le greffier, « et Dieu veuille qu'il réussisse à disculper monsieur de Boiscourant quand ce ne serait que pour abaisser un peu le caquet de mon cher patron. »
« Ah, monsieur Galpin d'Aveline triomphe !»«
Sans la moindre pudeur, il voit déjà son ancien ami au bagne. Il a reçu de monsieur le procureur général une nouvelle lettre de félicitations et il est venu, hier, à l'issue de l'audience, la montrer à qui voulait la lire. Tous ces messieurs l'ont complimenté, sauf monsieur le président, toutefois, qui lui a tourné le dos, et monsieur le procureur de la République, qui lui a dit en latin de ne pas vendre la peau de l'ours avant qu'il fût par terre.
Déjà, depuis un moment, on commençait à entendre des pas dans les corridors.
« Vite, une dernière recommandation, » fit Maître Folga. « Goudard tient à dissimuler sa personnalité, ne parlez de lui à âme qui vive. Et surtout, ne vous étonnez pas du costume sous lequel il vous apparaîtra. »
Le bruit de la porte qui s'ouvrait lui coupa la parole. Un juge entra qui, après avoir salué fort civilement, se mit à demander au greffier une multitude de renseignements au sujet d'une affaire qui venait au rôle le jour même.
« Au revoir, monsieur Méchinet, » dit le jeune avocat.
Et, reprenant sa course, il alla sonner à la porte du docteur Saignebosse.
« Monsieur le docteur est sorti, » répondit le domestique, « mais il va rentrer et il m'a recommandé de prier monsieur de l'attendre dans son cabinet. »
La preuve de confiance que donnait le docteur à Maître Folga était inouïe en lui permettant de rester seul dans le sanctuaire de ses méditations. C'était une pièce immense, tout encombrée d'objets disparates et incohérents, et qui, du premier coup, révélait les idées, les opinions, les goûts et les aspirations du médecin. Ce qui frappait dès l'entrée, c'était sur la cheminée un admirable buste de Bichat, flanqué des bustes plus petits, de Robespierre à droite et de Rousseau à gauche. Une horloge du temps de Louis XIV, dressée entre les deux fenêtres, battait les secondes avec des grincements de vieilles ferrailles. Tout un des côtés était occupé par une bibliothèque de poids noir bondée à défoncer de livres de toutes sortes, brochés ou habillés de reliures qui auraient bien fait rire M. d'Aubigeon. Un de ces meubles, comme on en fabrique pour classer les herbiers, disait la passion passagère du docteur pour la flore de Sauveterre. Une machine électrique rappelait le temps où le docteur s'était engoué de l'électrothérapie. Sur la table, placée au milieu de la pièce, des montagnes de bouquins trahissaient les récentes études du médecin. Tous les auteurs qui se sont occupés de la folie et de l'idiotie étaient là, depuis Apostolidel jusqu'à Tardieu, en passant par Brousset et Fodéré, par Spurzheim, Guardia, Marc, Esquiros, Blanche et 20 autres encore. Maître Folga achevait l'inventaire quand le docteur Saignebosse entra, toujours comme une trombe, mais beaucoup plus joyeux que de coutume.
« Je savais bien, parbleu, que je vous trouverais ici !» s'écria-t-il dès le seuil. « Vous venez me demander un rendez-vous pour Goudard. »
Le jeune avocat tressauta.
« Qui a pu vous le dire ? » dit-il abasourdi.
« Goudard en personne. Il me plaît à moi, ce garçon. Évidemment, on ne saurait me suspecter de tendresse pour tout ce qui, de près ou de loin, tient à la préfecture, moi qui ai traversé la vie avec des mouchards à mes trousses. Mais votre homme me raccommoderait presque avec la police. »
« Quand l'avez-vous vu ?»«
Ce matin, à 7 heures, il s'ennuyait si prodigieusement de perdre son temps dans son galetas du mouton rouge que l'idée est venue de feindre une indisposition et de m'envoyer chercher.
J'y suis allé et j'y ai trouvé une manière de ménétrier de campagne qui m'a paru se porter comme un charme. Mais dès que nous avons été seuls, il m'a dégoisé toute son affaire en me demandant mon opinion et en me disant ses idées. Maître Folga, ce Goudard est très fort, c'est moi qui vous le dis, et nous nous sommes parfaitement entendus. Vous a-t-il donc expliqué ce qu'il compte faire ? À peu près, mais il ne m'a pas autorisé à le divulguer. Patience, laissez faire, attendez, et vous verrez que le vieux Saignebose a encore un certain flair. Et se disant d'un air de fatuité superbe, il retirait, essuyait et replaçait sur son nez ses lunettes d'or. J'attendrai donc, dit le jeune avocat, et puisque voici ma commission faite, je vous demanderai la permission de vous entretenir d'une autre affaire. Je suis chargé par M. Jacques de Boiscourant de voir la comtesse de Clodieuse. Fichtre ! Et de tâcher d'obtenir d'elle un moyen de nous disculper. Va-t'en voir s'ils viennent. Difficilement, Maître Folga dissimula un mouvement d'impatience. J'ai accepté cette mission, fit-il d'un ton sec. Je tiens à la remplir. Je le comprends, mon cher maître. Seulement, vous n'arriverez pas jusqu'à Madame de Clodieuse. Le comte est très mal, elle ne quitte pas son chevet et ne reçoit même pas les personnes de son intimité. Et cependant, il faut que je parvienne jusqu'à elle. Il faut à tout prix que je lui remette en main propre le billet que m'a confié mon client. Et tenez, docteur, je vais être franc avec vous. C'est parce que je prévoyais des difficultés que je viens vous demander un moyen de les surmonter ou de les tourner. À moi ? N'êtes-vous pas le médecin du comte de Clodieuse ? 10 000 diables ! S'écria M. Saignebosse. Vous ne doutez de rien, vous autres avocats ! Et plus bas, répondant plutôt aux objections de son esprit qu'à Maître Folga, « Certainement, grommelait-il, je soigne M. de Clodieuse, dont, entre parenthèses, la maladie déroute toutes mes conjectures, mais c'est pour cela précisément que je ne puis rien. Notre profession a des règles qu'on ne saurait enfreindre sans compromettre la dignité du corps médical tout entier. » Mais il y va de l'honneur et de la vie de Jacques, monsieur, d'un ami et d'un coreligionnaire politique, c'est très vrai. Mais je ne puis vous aider sans abuser de la confiance de Madame de Clodieuse. Eh, monsieur, cette femme n'a-t-elle pas commis le crime pour lequel Monsieur de Boiscourant, innocent, va passer en cour d'assises ? Je le crois, et cependant... Il se tut, réfléchissant, jusqu'à ce que soudain, prenant son chapeau à large bord et l'enfonçant d'un coup sec sur sa tête, « Au fait, s'écria-t-il, tant pis, il est des intérêts sacrés qui priment tout. Venez !»